Donc bonjour à toutes et à tous. Alors je continue mon parcours dans l'évangile de Marc. Je prends le livre donc dans sa continuité, un chapitre après l'autre. Donc on s'en était arrêté, on va reprendre là aujourd'hui à partir du chapitre 7, verset 31. Et je vais lire le texte en plusieurs fois. Et avant de commencer la lecture, donc j'aimerais qu'on réfléchisse à cette vérité qui ressort de ces textes que je vais lire, c'est que Jésus nous aime individuellement, et il veut nous sortir de notre surdité et de notre cécité spirituelle. Et pour ce, il le fait pas d'un seul coup comme ça, il le fait graduellement. Ça prend toute une vie. Voilà, cette vérité que Jésus nous aime individuellement et veut nous sortir individuellement de notre surdité et de notre cécité spirituelle, et graduellement. Alors c'est ce que je verrai en quatre points. Je vous dis déjà le plan. Premièrement, on verra que nous avons besoin que nos oreilles s'ouvrent. Deuxièmement, on a besoin que nos yeux s'ouvrent. Troisièmement, on a besoin que notre cœur s'ouvre. Les oreilles et les yeux de notre cœur s'ouvrent. Et quatrièmement, on verra que Jésus nous ouvre le cœur graduellement. Donc je vous propose de prendre la lecture. C'est dans l'évangile de Marc, chapitre 7. À partir du verset 31, et dans un premier temps, je vais lire jusqu'au verset 37, 31 à 37. Et avant cela, je vais prier. Père Céleste, je veux te dire merci. Merci parce que tu nous as révélé le Père, tu nous as révélé ton cœur, tu nous as donné ta parole, Seigneur, pour cela. Et je prie que tu nous rendes attentifs à ta parole, Seigneur. Qu'elle prenne toute la place, que tout ce qui peut occuper notre cœur, qui encombre notre cœur, Seigneur, inutilement, Seigneur, que tu l'enlèves et que tu y mettes toute la place, que tu y prennes toute la place, Seigneur. Merci Seigneur. Sois aussi avec Brigitte, Seigneur, pour les enfants, et veuille bénir son moment avec eux, Seigneur, que ce soit des moments détendus où ils apprendront encore quelque chose sur toi, Seigneur Jésus. Sois avec nous, merci d'être là ce matin, tu es là, et je me repose en toi pour ce message, en Jésus-Christ. Amen. Marc 7, donc 31. Jésus quitta la contrée de Tyr et revint par Sidon vers la mer de Galilée, en traversant la contrée de la Décapole. On lui amena un sourd qui avait de la difficulté à parler, et on le supplia de lui imposer les mains. Il le prit à l'écart, loin de la foule, lui mit les doigts dans les oreilles et lui toucha la langue avec de la salive. Puis il leva les yeux au ciel, soupira et dit « Ephphatha », c'est-à-dire « Ouvre-toi ». Aussitôt ses oreilles s'ouvrirent, sa langue se délia et il se mit à parler correctement. Jésus leur recommanda de n'en parler à personne, mais plus il le leur recommandait, plus ils publiaient la nouvelle. Ils étaient dans un étonnement extraordinaire et disaient « Il fait tout à merveille, il fait même entendre les sourds et parler les muets. » Amen. Je m'arrête là pour le moment. Alors un texte donc qui parle des oreilles et nous avons besoin que nos oreilles s'ouvrent. Alors pour situer le contexte, Jésus revient en pays païen. Dans ce que la Bible appelle la Décapole. Donc c'est un ensemble de 10 villes qui sont pas des villes juives. C'est à l'est de la mer de Galilée. Et Jésus a déjà fait sa réputation. Il est connu pour avoir délivré un démoniaque. Et la nouvelle a fait son chemin. Donc il est connu, Jésus. Et voilà qu'on lui amène un sourd. Voilà qu'on lui amène un sourd qui avait du mal à parler. Alors, un sourd, en général, il est muet. Ou alors, il parle mal. Il articule mal et pour cause, il n'a jamais entendu de mots. Alors, il peut difficilement répéter quelque chose qu'il n'a jamais entendu. C'est donc une personne handicapée, avec un par rapport aux personnes qui entendent normalement. Jésus est face à lui, face à ce sourd et face à ce handicap. Et qu'est-ce qu'il fait? Il soupire. Par son soupir, on voit sa compassion pour cet homme, sa compassion. C'est pas une situation normale que cet homme soit sourd. Et on voit aussi sa contrariété de le voir dans cet état. Alors qu'est-ce que va faire Jésus? Eh bien, les gens lui ont emmené ce sourd, il va emmener ce sourd à l'écart. Dans une autre vue privée, où personne n'avait le droit de s'interposer entre Jésus et cet homme. L'homme, il est sourd et muet, ou il parle mal. Il ne peut pas entendre, mais il y a une chose qu'il peut, c'est qu'il peut voir. Et donc il a Jésus en face de lui. Et Jésus, comment va-t-il s'y prendre? Eh bien, il va rejoindre ce sourd par une sorte de langage, de langage gestuel. Le Seigneur lui touche les oreilles. Et la langue. Et en lui touchant les oreilles et la langue, eh bien, le Seigneur communique avec lui. Il lui communique très clairement quoi? Qu'il veut lui rendre l'ouïe et la parole. Vous avez remarqué, Jésus, avant de toucher sa langue, il va d'abord mouiller sa propre langue avec sa salive. Et il va toucher la langue du sourd. Et certainement que le sourd a compris le message. Ce geste de Jésus était certainement pour éveiller en lui le désir d'entendre la parole de Dieu qu'il avait en face de lui. Mais il est sourd. Mais certainement que le sourd a compris le message. Jésus avait quelque chose à lui dire. Et effectivement, Jésus va lui dire une parole. Il va lui dire une parole. Quelle est-elle? Cette parole Ephphatha, qui veut dire « ouvre-toi ». Qu'est-ce qui se passe? Aussitôt, nous dit le texte, l'homme se mit à parler. La parole de Dieu a eu son effet sur le sourd, même si celui-ci ne l'a pas entendu. La parole de Dieu a eu son effet sur le sourd, même si celui-ci ne l'a pas entendu. Il y a répondu avec foi à sa manière. Et dans ce texte, j'y vois plusieurs applications pour nous. Je ne sais pas si vous êtes à l'aise dans l'évangélisation pour partager votre foi, mais j'y vois plusieurs applications pour nous dans l'évangélisation. On se rappelle qu'ici, on est dans un pays païen. Donc, ce n'est pas un milieu juif. Et comment est-ce qu'on s'y prend pour partager notre foi? Eh bien, déjà, le message que nous avons ici, c'est que Jésus veut parler à tous, handicapés ou pas. Et Jésus veut s'occuper aussi des personnes handicapées, qu'on dit parfois différentes. Aujourd'hui, on a relevé un peu le niveau. Hein. Je n'ai pas vu le film, mais il y a un titre d'un film qui s'appelle « Un petit truc en plus » pour parler des handicapés qui ont quelque chose en plus. Alors bon, je ne l'ai pas vu, hein, mais en tout cas, voilà, ce sont des personnes qui sont différentes. Et ce texte nous invite à imiter le Seigneur. À imiter le Seigneur lorsque nous avons en face de nous des personnes qui sont d'une autre culture, qui ne parlent pas la même langue que nous. Alors, il y a quand même un moyen de communiquer avec eux. Des gens qui ne parlent pas, qui sont différents. Le Seigneur est au-dessus des barrières. Et il peut nous aider à nous mettre à leur portée, dans un langage qui leur soit compréhensible, comme il a été compréhensible à ce sourd, comme il a utilisé la gestuelle pour le sourd. Une autre application, c'est que l'homme n'a pas entendu Jésus dire « Ephphatha ». En tout cas, je comprends qu'il a entendu après cette parole. Il n'a pas entendu Jésus dire « Ephphatha », mais il a pu lire cette parole sur les lèvres de Jésus. Il a lu la parole sur les lèvres. Et je crois que c'est, ne sous-estimons pas la valeur de la parole imprimée. Lorsque nous distribuons des traités, ça peut faire son chemin, ou une pensée du calendrier. Vous savez, Pascal avait partagé, c'est vrai, j'aime pas jeter les pensées, la bonne semence, je préfère les mettre dans des boîtes à lettres chaque jour, parce qu'un feuillet peut faire, le Seigneur peut s'en servir. Je le crois. Ne sous-estimons pas la valeur de la parole imprimée. L'homme était sourd, il ne pouvait pas entendre. Il ne pouvait pas entendre la parole de Dieu. Alors, si nous-mêmes, on n'est pas à l'aise pour partager notre foi, on a peut-être la parole difficile, on peut quand même tendre un traité à quelqu'un. Il le reçoit ou il ne le reçoit pas. Mais ne sous-estimons pas la valeur de la parole imprimée. Alors, c'est merveilleux, le Seigneur, eh bien, il y a des gens qui ont amené le sourd au Seigneur, et donc ils ont, même si le Seigneur l'a pris à part, ils ont bien vu que le sourd entendait. Ils pouvaient parler distinctement. Et qu'est-ce qui s'est passé? Ils étaient dans l'émerveillement, ils n'ont pas su s'empêcher d'aller porter la nouvelle aux alentours, même si Jésus leur a interdit, et parce qu'ils ne pouvaient pas s'empêcher de dire « Il fait tout à merveille », verset 37. Et nous? Il est bon de regarder en arrière le Seigneur dans ce qu'il a fait dans notre propre vie. Quand il a tout fait à merveille pour nous attirer à lui, en nous sauvant de nos péchés. Il fait tout à merveille. Il a fait tout à merveille pour toi, pour moi, si tu l'as accepté, en tout cas. Et puis, Ce n'est que lorsqu'on ouvre les oreilles de notre cœur que là, ça déborde. Ces gens n'ont pas pu s'empêcher de dire « Il fait tout à merveille ». C'est lorsqu'on ouvre les oreilles de notre cœur qu'on a envie d'ouvrir notre bouche. Que nous pouvons ouvrir notre bouche pour le louer. Qu'est-ce que nous pouvons faire avec notre bouche? Nous pouvons le louer, nous pouvons le prier. Nous pouvons bien sûr témoigner avec notre bouche. Et pour cela, eh bien, il nous a fallu d'abord ouvrir notre cœur. Ouvrir les oreilles de notre cœur. L'effet contraire, le mutisme, en général, résulte de la surdité spirituelle. Le mutisme spirituel peut résulter de la surdité spirituelle. Quelqu'un qui n'a pas ouvert vraiment les oreilles de son cœur. En tout cas, Jésus a eu de la compassion pour un seul homme. Et on voit, dans la suite du texte que je vais prendre à partir du chapitre 8, Jésus, dans ce récit, il a eu de la compassion pour un seul homme, comme il en a pour toi, comme il en a pour moi, personnellement. Dans le récit qui suit, on va voir que Jésus a eu de la compassion pour toute une foule. Toute une foule. On reprend notre lecture. Chapitre 8, je lirai les versets 1 à 9. Une foule de 4000 personnes. Vous avez peut-être trouvé de quel texte il s'agit. Chapitre 8, versets 1 à 9. En ces jours-là, comme il y avait de nouveau une foule nombreuse et qu'elle n'avait pas de quoi manger, Jésus appela ses disciples et leur dit « J'ai compassion de cette foule, car voilà 3 jours que ces gens restent près de moi et n'ont pas de quoi manger. Si je leur envoie chez eux à jeun, ils vont défaillir en chemin, car quelques-uns d'entre eux sont venus de loin. » Ses disciples lui répondirent « Comment pourrait-on les rassasier de pain ici dans un lieu désert ?» Jésus leur demanda « Combien avez-vous de pain ?»« Pardon, 7, dirent-ils. » Alors il invita la foule à s'asseoir par terre, prit les 7 pains, et après avoir rendu grâce, il les rompit et les donna à ses disciples pour les distribuer. Ils les distribuèrent à la foule. Ils avaient encore quelques petits poissons, et Jésus, après la bénédiction, dit de les distribuer également. Ils mangèrent et furent rassasiés, et l'on emporta 7 corbeilles pleines de morceaux qui restaient. Ils étaient environ 4000. Ensuite, Jésus les renvoya. Amen. Jusqu'ici, pour le moment, notre lecture. Mon deuxième point, alors nous avons besoin que nos oreilles s'ouvrent, nous avons aussi besoin que nos yeux s'ouvrent. Nos yeux s'ouvrent. Ici, effectivement, on imagine la scène devant 4000 personnes. Un miracle que Jésus a accompli. Ce miracle, eh bien, c'est le miracle de la multiplication des pains et c'est la deuxième fois, c'est le deuxième miracle de la multiplication des pains. Le premier a eu lieu au chapitre 6, un peu avant. C'est donc le deuxième miracle de ce type, avec beaucoup de similitudes avec le premier récit du chapitre 6, avec toutefois quelques différences. Notamment une différence qui est notable. Au premier miracle, donc au chapitre 6, ce sont les disciples qui sont venus voir Jésus en voyant la foule qui n'avait pas encore mangé à la fin de la journée, donc une seule journée, pour lui demander de la renvoyer parce que il n'avait pas de quoi manger. Ce à quoi Jésus a répondu, donnez-leur vous-même à manger. Et c'est là qu'a eu lieu le miracle de la multiplication des pains et des 2 poissons, 5 pains et 2 poissons. Ici, donc, au chapitre 6, c'était une foule composée de juifs. Ici, c'est une foule, la foule est composée de païens. Donc c'est une différence aussi. Et là, dans ce récit, c'est Jésus qui prend l'initiative, qui a compassion de cette foule. Ce ne sont pas ses disciples qui sont allés le voir, c'est Jésus qui prend l'initiative. Pourquoi? Parce qu'il est ému de compassion. Il est ému de compassion. Pourquoi? Parce que cette foule est restée avec lui pendant 3 jours consécutifs. 3 jours consécutifs à écouter Jésus. Ils en ont même oublié de manger. Écouter Jésus était plus important pour eux que de manger. Et Jésus, bien sûr, l'a remarqué. Jésus ne veut pas renvoyer cette foule. Jésus remarque même que certains sont venus de loin pour l'écouter. Il est sensible lorsque vous vous faites déplacer, que vous vous levez le matin, que vous venez au culte, parfois de loin. Et il veut nous parler à chacun. Certains sont venus de loin, et quel est le risque? Eh bien, ils pourraient défaillir en étant à jeun pour rentrer chez eux. Jésus a le souci de cette foule. De peur qu'il ne défaille. Le verbe défaillir, j'ai regardé le sens du mot défaillir. Ça veut dire perdre des forces physiques, ne plus avoir de force, être faible. Mais c'est aussi l'idée de se décourager, le verbe défaillir. Il y a aussi un sens plus moral. Alors, si vous êtes dans un ou l'autre état, si vous vous sentez faible physiquement, ou si vous vous sentez découragé, eh bien, Jésus ne veut pas vous laisser dans cet état, comme il n'a pas voulu laisser dans cet état la foule. Il ne veut pas vous laisser dans cet état. Il a compassion de vous, il a compassion de nous. Ces gens ont voulu passer 3 jours avec Jésus, quitte à sauter leur repas. Eh bien, il y aura un retour. En retour, Jésus va s'occuper d'eux, de leurs besoins, de tous leurs besoins, leurs besoins physiques notamment, leurs besoins de manger. Et là, eh bien, ça illustre parfaitement ce verset qu'on connaît en Matthieu, chapitre 6, verset 33, dans l'évangile de Matthieu, où Jésus dit « Cherchez premièrement le royaume de Dieu et sa justice, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. » C'est une promesse. Ces gens ont cherché premièrement le royaume de Dieu, ils se sont déplacés pour écouter Jésus pendant 3 jours, et en retour, Jésus leur a donné à manger. Promesse, donc, de faire passer le royaume de Dieu en premier. Alors, quelques différences entre les deux multiplications. Au chapitre 6, Jésus a multiplié 5 pains et 2 poissons, il a nourri 5000 personnes, sans compter les femmes et les enfants. Ici, Jésus s'est servi de 7 pains, quelques poissons, c'est pas combien, pour nourrir quelques 4000 personnes. Pour les 5000 personnes, il est resté 12 paniers de reste. Pour les 4000 personnes, il reste 7 corbeilles de reste. Une corbeille, c'était beaucoup plus grand qu'un panier, on pouvait même y mettre un homme. En tout cas, il y avait des restes. Jésus n'a pas hésité à répéter ce miracle de la multiplication des pains à la vue de tous, aussi bien pour les juifs que pour des non-juifs. Pourquoi ? Parce que Jésus ne s'habitue pas à la souffrance des hommes. Jésus ne s'habitue pas à la souffrance des hommes, des femmes et des enfants, et des personnes âgées. Il n'a pas hésité à reproduire une seconde fois, avec beaucoup de compassion, ce miracle. Il ne s'habitue pas. Est-ce que nous, on s'habitue parfois ? Est-ce qu'on s'habitue à la souffrance ? Est-ce qu'on banalise la souffrance ? On la voit, on passe dans la rue, quelqu'un qui souffre. C'est facile de s'habituer. Et puis, à la télé, quand on regarde les informations, ou à la radio, alors, on a les résultats de foot. Là, on va avoir les résultats des JO, des Jeux Olympiques. Et puis, juste après les résultats de foot, on entend la nouvelle d'une catastrophe. Des gens sont morts dans un incendie, assassinat de telle et telle personne, comme si tout ça faisait partie du même groupe. Mais Jésus, lui, ne s'habitue pas à la souffrance des hommes et des femmes. Ici, il a nourri une femme, une foule de païens. Sommes-nous compatissants à la misère spirituelle aussi de ceux qui ont faim physiquement et ceux qui ont faim spirituellement, qui ne connaissent pas Dieu ? Sommes-nous compatissants ? Alors, 2 récits, donc, qui se ressemblent. En tout cas, c'était un récit qui ne pouvait pas passer inaperçu, puisque la foule a bénéficié des pains que Jésus a multipliés par l'intermédiaire des disciples. Mais qu'est-ce qui s'est passé ? Ce miracle ne pouvait pas passer inaperçu aux yeux des gens qui étaient là. Jésus a rendu grâce aux yeux de toute la foule. Et vous avez remarqué dans le deuxième récit, il rend grâce par 2 fois. Enfin, plus exactement, la première fois, il rend grâce pour le pain, et deuxièmement, il bénit les poissons. C'était aux yeux de tous. Tout le monde l'a vu. Donc un miracle. Le deuxième miracle que les disciples ont vu. C'était la deuxième fois que les disciples assistaient à un tel miracle. Est-ce que ces miracles leur ont donné suffisamment confiance en Jésus ? D'avoir vu pour la deuxième fois un tel miracle, est-ce que ça a suffi à leur donner confiance en leur maître? Eh bien, c'est ce que nous allons voir. On continue notre lecture, chapitre 8, à partir du verset 10, et je lirai jusqu'au verset 21. Aussitôt, il monta dans la barque avec ses disciples et se rendit dans le territoire de Dalmanuta. Les pharisiens survinrent, commencèrent à discuter avec Jésus et pour l'éprouver, lui demandèrent un signe venant du ciel. Jésus soupira profondément en son esprit et dit « Pourquoi cette génération demande-t-elle un signe ? En vérité, je vous le dis, il ne sera pas donné de signe à cette génération. » Puis il les quitta et s'embarqua de nouveau pour passer sur l'autre rive. Les disciples avaient oublié de prendre des pains. Ils n'en avaient qu'un seul, avec eux dans la barque. Jésus leur fit cette recommandation « Gardez-vous attentivement du levain des pharisiens et du levain d'Hérode. » Les disciples raisonnaient entre eux parce qu'ils n'avaient pas de pain. Jésus s'en rendit compte et leur dit, « Pourquoi raisonnez-vous parce que vous n'avez pas de pain ? Vous ne saisissez et ne comprenez pas encore ? Avez-vous le cœur endurci ? Vous avez des yeux et vous ne voyez pas, vous avez des oreilles et vous n'entendez pas ? Ne vous rappelez-vous pas, lorsque j'ai rompu les 5 pains pour les 5 000 hommes, combien de paniers pleins de morceaux vous avez emportés ?» 12 lui répondirent-ils. « Et quand j'ai rompu les 7 pains pour les 4 000 hommes, combien de corbeilles pleines de morceaux avez-vous emportés ?»« 7 » dirent-ils. Et il leur dit, « Ne comprenez-vous pas encore ?» Amen. Jusqu'ici, pour le moment, la parole. Mon troisième point, donc, ici, c'est que, autant nous avons besoin que nos oreilles s'ouvrent, que nos yeux s'ouvrent, eh bien, nous avons besoin que notre cœur s'ouvre. Que notre cœur s'ouvre. Jésus, donc, quitte la Décapole, et lui et ses disciples traversent le lac vers la rive occidentale pour aller à Dalmanuta. On se situe à peu près, oui, c'est sur la rive occidentale. Et qui est-ce qui les attend là, sur le rivage ? Eh bien, les pharisiens. Les pharisiens. Les pharisiens, ils attendaient Jésus. Ils voulaient le confondre, comme à leur habitude. Ils guettaient Jésus. Et là, ils avaient une requête à lui faire. C'était quoi ? Eh bien, ils demandent à Jésus un signe venant du ciel. Donne-nous un signe qui vient du ciel. Et là, eh bien, ça fait soupirer, et soupirer profondément le Seigneur. Seigneur Jésus. Il avait soupiré, Jésus, devant la souffrance de ce sourd muet qu'il avait en face de lui, à cause de sa souffrance. Et il était indigné devant la souffrance de cet homme. Autant ici, Jésus est indigné devant la perversité des pharisiens. Il est indigné et il soupire. Ces pharisiens qui ne voulaient pas voir ni entendre qu'ils avaient devant eux ce signe qu'ils demandaient du ciel, ils l'avaient devant eux. C'était lui, Jésus, le seul homme sans péché qui soit descendu du ciel. Il est venu du ciel, c'est pour ça qu'il est sans péché, il est le Fils de Dieu. Et les pharisiens, malgré les évidences, sont restés sourds et aveugles. Sourds à l'enseignement de Jésus, aveugles à ses miracles. Ils n'ont pas voulu ni entendre, ni voir. Et ils attendaient un miracle du ciel. Alors on peut supposer, c'est quoi ? Qu'est-ce qu'ils attendaient du miracle ? Qu'est-ce qu'ils attendaient comme miracle venant du ciel ? Que les étoiles tombent ? Que le soleil s'obscurcisse ? Peut-être quelque chose de miraculeux ? En tout cas, ce miracle qu'ils attendaient ne concernait pas les gens. Ce miracle ne concernait pas le soulagement des personnes. Ce miracle qu'ils attendaient ne concernait pas le bien des gens, à la différence de Jésus. Les pharisiens n'ont pas demandé un miracle sur la terre parce qu'ils en avaient assez vu comme ça. Ils en avaient vu, mais ils ne voulaient pas croire. Leur cœur était manifestement endurci. Alors la réponse de Jésus est claire. Non. C'est non, il n'y aura pas d'autre signe. Et que se passe-t-il ? Le texte nous dit que Jésus les quitta. Jésus les quitte. Il ne va pas chercher à argumenter à ce moment-là, du moins. Il les quitte. Vous savez, on a besoin de discernement. C'est vrai que Dieu veut que tous les hommes soient sauvés. Et il y a parfois des personnes qui savent très bien, qui ont entendu la vérité, mais qui ne veulent pas. Et qui ne veulent pas recevoir. Eh bien là, on a la bonne attitude face à la perversité. Il n'y a pas d'autre... Les pharisiens avaient une perversité. Et là, on assiste quoi ? À un abandon tragique. Un abandon tragique de celui qui ne veut pas croire malgré les évidences. Mais surtout un abandon de ceux qui sont en guerre ouverte contre Jésus pour le perdre, comme l'étaient les pharisiens. Les pharisiens ne voulaient pas croire, mais les disciples. Il y a quand même une différence avec les disciples. Les disciples, évidemment, ne sont pas en guerre contre Jésus, évidemment. Mais où en est leur foi ? Les disciples qui côtoyaient Jésus, qui ont vu ses miracles, qui l'ont entendu comme les pharisiens. Bon, ils ne le côtoyaient pas les pharisiens, mais ils ont entendu son enseignement. Ils l'ont côtoyé. Eh bien, que s'est-il passé ensuite ? Ils sont remontés dans la barque, Jésus avec ses disciples, et ils repartent vers l'est. Les disciples avaient oublié de prendre du pain. Ils n'en avaient pris qu'un seul avec eux. Et à ce moment-là, Jésus leur dit, alors oui, quelque chose qui a un rapport avec le pain, c'est le levain. Jésus leur dit de se garder du levain, mais des pharisiens, et de celui d'Hérode, deux types de levain. Alors, les disciples n'ont manifestement pas compris les paroles de Jésus, mais ne leur jetons pas la pierre. Parce que, effectivement, eh bien, ça nous invite aussi à nous examiner. Les disciples n'ont manifestement pas compris les paroles de Jésus. Est-ce que Jésus parlait d'une sorte de levain qu'il fallait éviter parce que c'était le levain qu'utilisaient les pharisiens? Non. Non. Le levain dont parlait Jésus représente, comme la Bible le cite, ce à quoi la Bible compare très souvent, le levain représente le péché. Le péché. Pourquoi le levain, la Bible compare-t-elle le péché au levain? Parce que le péché se répand très facilement dans une société, comme le levain se répand dans du pain pour le faire monter. Et un exemple flagrant du péché qui se répand dans notre histoire du monde, eh bien c'est la montée du nazisme. Le nazisme, presque personne ne prenait Hitler au sérieux dans les années 20, où il a commencé à vouloir se faire connaître. Personne ne prenait au sérieux Hitler dans les années 20. Et pourtant, en 1933, il arrivera au pouvoir avec ses idées. Et qu'est-ce qu'il fera? Jusqu'en 1939, il prépara la guerre. Il savait ce qu'il voulait. Il prépara la guerre, ce qui deviendra la Seconde Guerre mondiale de 1939-1945. Et puis, ses idées antisémites, eh bien, elles se sont répandues. Ces idées antisémites, même si elles étaient sous-jacentes dans beaucoup de personnes, elles se sont répandues en Europe, jusqu'à aboutir à quoi? À la Shoah. Alors oui, le péché se répand comme du levain. Ça peut être insignifiant, mais attention, et Jésus nous met en garde contre ce levain. Alors deux types de levain, le levain des pharisiens et le levain de celui d'Hérode. Le levain des pharisiens, on peut le caractériser, il se caractérise par l'hypocrisie. Ils ont une religiosité toute extérieure, de propre juste, tout en cachant leur intérieur qui est corrompu. Ils ont un cœur insensible à la souffrance des gens, aux besoins humains. Voilà le levain des pharisiens. Et Jésus nous met aussi en garde contre le levain d'Hérode. Et le levain d'Hérode, c'est pas le même, mais c'est toujours le péché. Ce levain, c'est celui du doute, du scepticisme, c'est celui de l'immoralité sexuelle. On connaît que Hérode, il était sensuel, il aimait beaucoup, il était dans l'immoralité sexuelle. Le levain d'Hérode, c'est celui de la mondanité, d'aimer plus le monde que la parole de Dieu. Et Jésus nous met aussi en garde contre ce levain. Mais les disciples n'ont pas compris. Ils n'ont pas compris. Les disciples, ils sont plutôt terre à terre. Mais encore une fois, ne leur jetons pas la pierre. Les disciples, en entendant Jésus parler de levain, ils s'inquiétaient de ne pas avoir pris assez de pain. Mais on se dit, mais en fait, leurs pensées restaient tournées vers leur ventre, vers la nourriture terrestre, la peur de manquer. Mais attendez un peu. Jésus a nourri sous leurs yeux une première fois 5000 personnes. Puis une deuxième fois, à nouveau, il a nourri sous leurs yeux 4000 personnes avec si peu de pain et de poisson. Alors Jésus n'est-il pas capable de nourrir 12 hommes avec un seul pain? On ne comprend pas, mais ne leur jetons pas la pierre. D'autant plus que Jésus était avec eux physiquement. Alors oui, voilà de quoi attrister Jésus, le faire soupirer, le mot n'est pas dit ici, mais Jésus, eh bien, il est attristé. Et il est presque en colère, hein, on peut dire, ils n'ont pas compris. Mais Jésus, n'en doutons pas, il souffre aussi lorsqu'il voit de l'incrédulité chez son peuple ou pas. Notre peine à croire que s'il a pourvu dans le passé, il pourvoira encore à l'avenir. Jésus est triste quand on ne lui fait pas confiance. Et Jésus, bien, il va faire des reproches à ses disciples, mais regardons la manière dont il s'y prend. Et vraiment, ça. C'est une leçon pour nous, un enseignement pour nous. Jésus ne va pas accuser les disciples. Tu n'as pas assez de foi. Tu ne comprends rien. Tu ne comprends rien à rien. Non, Jésus s'y prend pas comme ça. Il va les mettre devant leurs problèmes. Comment? Par des questions. Et si vous avez un reproche à faire à quelqu'un, essayez de l'amener à réfléchir par des questions. Ça passera beaucoup mieux que d'avoir un doigt accusateur. Jésus s'y prenait par des questions. Et j'en ai compté au moins 7, des versets 17 à 21, où il leur reproche à la fois leur manque d'intelligence et leur inquiétude au sujet de la nourriture. Mais dans les sept, il y en a une qu'on pourrait appeler la question qui tue. Qui tue quoi ? La question qui tue l'incrédulité. Cette question, il nous la pose aussi à nous. Avez-vous le cœur endurci ? Verset 18. Avez-vous le cœur endurci ? Et voilà le cœur du problème. Le cœur du problème, il est dans notre cœur. Le cœur du problème, c'est notre cœur. C'était le problème majeur des pharisiens. Est-ce que c'était aussi celui des disciples, demande Jésus. Les disciples ne voient pas, ils n'entendent pas. Les pharisiens, pareil. À la différence près que les disciples, eux, ne le font pas exprès. On pourrait dire qu'ils ont la mémoire courte. Et puis les disciples, à la différence des pharisiens, ne sont pas en guerre contre Jésus. Les pharisiens, eux, se soucient de paraître juste aux yeux des hommes, les disciples. Jésus, pardon, lui, se soucie des personnes. Il en prend soin. Et le texte est si riche. J'ai commencé par lire l'épisode qui décrit la guérison d'un sourd et d'un muet. Et la fin du passage que je vais lire, enfin la presque fin, l'avant-dernier passage que je vais lire, oui, c'est le dernier passage, parle de la guérison d'un aveugle. Le texte commence par la guérison d'un sourd et là il termine par la guérison d'un aveugle. Et je poursuis ma lecture. Alors, avant de poursuivre, Jésus a abandonné les pharisiens. Il les a laissés à leur sort, à leur incrédulité volontaire. Ils étaient en guerre contre Jésus, il les a laissés. Mais il n'abandonne pas pour autant ses disciples. Il était vraiment exaspéré de voir leur incrédulité. Ils n'ont pas compris. Ils s'inquiètent. Mais Jésus ne les abandonne pas. Et regardons la suite du texte. Il y a de l'espoir. La suite du récit va nous le montrer. Et je vais terminer par ce texte-là. Chapitre 8, versets 22 à 26. Ils se rendirent, donc verset 8, verset 22 à 26. Ils se rendirent à Bethsaïda, on lui amena un aveugle et on le supplia de le toucher. Il prit l'aveugle par la main et le conduisit hors du village. Puis il mit de la salive sur les yeux, lui imposa les mains et lui demanda, « Vois-tu quelque chose ?» Il ouvrit les yeux et dit, « Je vois des hommes, mais comme des arbres, et ils marchent. » Jésus lui mit de nouveau les mains sur les yeux, et quand l'aveugle regarda fixement, il était rétabli et voyait tout distinctement. Alors Jésus le renvoya dans sa maison en disant, « Ne rentre pas au village. » Mon quatrième et dernier point, donc, c'est que Jésus veut nous ouvrir le cœur, oui, et il va le faire, mais graduellement, étape par étape, pas d'un seul coup. Jésus nous ouvre le cœur graduellement. Mon quatrième point. Un autre miracle, le second miracle de guérison, hein, après la guérison du sourd, eh bien, ce second miracle, c'est le seul cas dans les évangiles où Jésus s'y prend à deux fois pour guérir quelqu'un. C'est le seul miracle où Jésus ne guérit pas instantanément, il y a deux étapes. Il guérit en deux temps. On pourrait dire que les disciples de Jésus ressemblaient à l'aveugle au premier stade de la guérison. Au premier stade. Ils avaient reçu le salut en Jésus, mais ils ne voyaient pas encore tout distinctement, ils n'avaient pas encore tout compris. C'est pour ça que ne leur jetons pas la pierre si facilement. Ils n'ont pas compris ni retenu le premier ni le deuxième miracle de la multiplication des pains. Ils avaient besoin de quoi, les disciples ? Ils avaient besoin d'une transformation de cœur. Ils avaient vu, ils avaient entendu, ils avaient besoin d'une transformation de cœur. Et ces deux guérisons miraculeuses, celle du sourd et celle de l'aveugle, montrent que Jésus veut nous parler, veut nous rejoindre individuellement. Il veut nous parler intimement, loin de la foule, pour toucher notre cœur. Là, c'est différent de la foule, là. Hein, il veut nous rejoindre individuellement pour toucher notre cœur. Et de quelle manière ? Lui seul peut ouvrir les oreilles et les yeux de notre cœur. De quelle manière peut-il toucher notre cœur ? De quelle manière l'a-t-il touché, si c'est votre cas ? Et bien plus tard, au jardin de Gethsémané, Jésus fera une prière à Dieu son Père pour éloigner de lui la coupe de la crucifixion par laquelle il devait passer. Il a fait cette prière à son Père, tout en se soumettant à sa volonté, quelle qu'elle soit. Et Dieu lui a fermé l'oreille à sa prière. Dieu s'est rendu en quelque sorte sourd à la prière de son Fils, parce que c'était son plan, qu'il meure sur la croix pour nos péchés. Dieu a fermé l'oreille à la prière de son Fils pour ne plus jamais fermer l'oreille à nos prières. Si nous avons reçu Jésus, ça a duré juste le temps de la crucifixion, ces 3 jours de la passion du Christ, où Dieu n'a pas entendu, il n'a pas répondu à la prière de son Fils, pour entendre chacune de nos prières faites au nom de son Fils Jésus. Alors bien sûr, Jésus répond à nos prières quand elles sont faites en Christ, à nous de tendre l'oreille. C'est parfois nous qui n'entendons pas, c'est parfois nous qui sommes sourds parfois. Alors on peut, dans les deux guérisons, celle du sourd et de l'aveugle, c'est frappant parce qu'il y a beaucoup de similitudes. Jésus a pris à part les deux hommes. Il a pris là encore de la salive et il l'a appliqué sur la langue pour le sourd-muet, il l'a appliqué sur sa langue et pour l'aveugle, il a appliqué sa salive sur ses yeux. Alors pourquoi? Qu'est-ce que ça veut dire cette salive? Aujourd'hui, il n'est plus là physiquement, mais j'y vois en tout cas dans cette salive, le fait qu'il ait d'abord pris de sa salive, eh bien, j'y vois, c'est une image de la puissance de la parole qui sort de sa bouche et qui peut guérir et qui peut sauver. Sa parole qui peut guérir et sauver. Autre point commun entre les deux récits, dans les deux cas, ce sont des gens qui ont amené tantôt le sourd à Jésus, tantôt l'aveugle à Jésus. Ce sont des personnes qui ont amené ces personnes handicapées à Jésus. Pourquoi? Pour la bonne raison qu'elles ne pouvaient pas y aller seules. Elles ne pouvaient pas y aller seules. Elles avaient besoin d'être accompagnées pour aller à Jésus. Et on peut se poser la question, quelles personnes dans notre entourage ont-elles besoin d'être accompagnées? Des personnes qui ne viendraient pas par elles-mêmes, mais elles ont besoin d'être accompagnées pour venir à l'église, pour entendre l'évangile, parce qu'elles ne peuvent pas y aller seules. Elles ne veulent pas y aller seules. Ça peut être des enfants. Ça peut être vos enfants. Récemment, donc, on a reçu Pierre Lachat, ce chanteur évangéliste, et c'était réjouissant de voir que les gens qui sont venus pour la plupart accompagnés d'une personne, soit d'un voisin, soit d'un contact. Les gens sont venus accompagnés. Ils ont amené une connaissance avec eux. Soyons sûrs que Jésus, de même qu'il a honoré la foi des gens qui lui ont amené le sourd-muet et l'aveugle, ne doutons pas qu'il veut se faire connaître aux gens qu'on a voulu amener à un événement d'évangélisation ou autre, des gens qu'on ou à l'église. Ne doutons pas qu'il veut se faire connaître à eux, qu'il entend nos prières. Alors oui, Jésus, il veut nous faire voir graduellement. On ne voit pas le fruit parfois que Jésus travaille, on ne le voit pas, mais ne doutons pas qu'il travaille. Et parfois, et je crois que cette question nous la demande aussi à nous tous, Jésus nous demande à ce stade, que vois-tu? Que vois-tu là dans ta vie où tu en es aujourd'hui? Qu'est-ce que tu vois dans ta vie chrétienne? Peut-être que nous voyons encore flou, et c'est normal, on n'a pas tout compris. Peut-être que nous prenons des hommes pour des arbres qui marchent, alors que les arbres ne marchent pas. Alors ça veut dire qu'on peut se tromper dans notre jugement, dans notre évaluation. On peut se tromper. Ça veut dire que nous avons besoin d'une deuxième intervention du Seigneur pour qu'on voit clairement. On ne voit pas tout du premier coup. Donc nous ne nous décourageons pas si on n'a pas tout compris, mais Dieu nous ouvre les yeux graduellement. On a besoin d'une deuxième intervention du Seigneur après notre conversion, pour que nous voyions distinctement. Pourquoi? Parce que le discernement spirituel, c'est une affaire de cœur et non de tête. On a besoin que notre cœur soit changé, soit transformé, pour avoir un regard plus juste sur nous-mêmes et sur les autres. On peut se tromper parfois. Et on a besoin toujours d'être au pied du Seigneur pour voir plus clair. Et croyons qu'il va nous ouvrir les yeux. Jésus ne se contente pas de l'à peu près. Il mène tout à la perfection, oui, il fait tout à la perfection. Et il y a une promesse hein, qu'a faite l'apôtre Paul, hein, qui sont la parole, dans Philippiens 1:6, une promesse qu'on peut s'attribuer à chacun d'entre nous qui croyons. Philippiens 1:6, je vous la redis, cette promesse. L'apôtre Paul qui disait, je suis persuadé que celui qui a commencé en vous cette bonne œuvre la rendra parfaite pour le jour de Jésus-Christ. Amen. Prions. Oui Seigneur, quand on regarde ces récits, quelle patience tu as eue avec tes disciples. Et merci pour ta patience avec nous. Seigneur, on ne veut pas se décourager, parfois on ne comprend pas tout. Comme des enfants, on tombe, on se relève, on apprend à marcher. Seigneur, merci parce que tu nous prends la main, Seigneur. Tu ne nous laisses jamais, nous qui avons mis notre confiance en toi, Seigneur. Et Seigneur, on veut continuer de marcher avec toi, continuer d'espérer en toi. Et nous, aide-nous, Seigneur, à nous appuyer sur tes promesses, Seigneur, parce qu'elles sont vraies. Et merci, Seigneur, de ce que tu nous promets, que ce que tu as commencé en nous, lorsque tu t'es révélé à nous, tu le termineras, Seigneur. Tu as commencé un travail et tu l'achèveras. Le travail, nous sommes en chantier, tu n'en as pas fini avec nous, Seigneur. Merci. Merci, Père, pour cette espérance. Merci pour tes promesses qui sont certaines. Alors, Seigneur, je te remets, ceux qui ont besoin, Seigneur, de reprendre des forces sur le chemin, dans leur marche avec toi, que tu les fortifies, que tu nous fortifies chacun, Seigneur, et que tu nous aides de jour en jour à mieux te voir, pour que, Seigneur, oui, tout ce qui te fait de l'ombre disparaît, pour que tu sois vraiment, Seigneur, à la tête, le centre de notre vie. Je te remets aussi, Père, les familles de notre Église, leurs enfants, Seigneur, que tu leur donnes toute sagesse, Seigneur, des moments bénis, joyeux autour de ta parole, Seigneur. Et donne-nous aussi, Seigneur, de te faire confiance, de semer, Seigneur, ce que nous avons donné, ce que nous avons reçu. Parce que quelle grâce tu nous as faite de te connaître, Seigneur. C'est vrai qu'on comprend mieux ce qui se passe dans notre vie, dans ce monde, à la lumière de ta parole. Et Seigneur, cette prière que l'apôtre Paul faisait mention, Seigneur, il priait que tu illumines les yeux du cœur. Des gens de l'église d'Éphèse. Eh bien oui, Seigneur, illumine les yeux de notre cœur pour que nous sachions quelle est l'espérance qui s'attache à ton appel, quelle est la richesse de ta gloire, la gloire de ton héritage que tu nous réserves, Seigneur, à nous qui avons placé notre confiance en toi. Et que nous comprenions qu'elle est envers nous qui croyons l'infinie grandeur de ta puissance qui se manifestant avec efficacité par la vertu de ta force. Oui, Seigneur, nous te prions que tu ouvres le cœur. Tu nous ouvres le cœur déjà à nous et aussi que tu ouvres le cœur, que tu ouvres les oreilles et les yeux des cœurs de ceux que nous connaissons, qui ne te connaissent pas, qui ont été aveuglés ou rendus sourds par l'ennemi. Seigneur, que tu leur ouvres les yeux de leur cœur pour qu'ils te voient. Qu'ils te voient, Seigneur, toi qui as donné ta vie pour eux, pour nous. Nous t'en prions et nous te remercions, Père, pour tes promesses en Jésus-Christ. Amen.